France Inter.
Les émeutes éclatent le 8 septembre.
Le Népal, pays habituellement si discret.
Le gouvernement vient d'annoncer le blocage de 26 plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp.
Cette décision a poussé dans la rue des milliers de jeunes de la génération Z, accusant le pouvoir en place de censure et de corruption.
Commissariat de police, Cour suprême, Archives nationales et ici le Parlement sont incendiés. Le pays sombre dans le chaos.
Qu'y a-t-il de commun entre un jeune Marocain qui fait ses études à Rabat et une jeune Péruvienne qui commence à peine à travailler dans sa ville de Lima? Qu'y a-t-il de commun entre un jeune Malgache, une Indonésienne, un Kenyan ou ce jeune homme-là né avec vue sur l'Himalaya au Népal? En commun, ils ont leur téléphone, ils sont nés avec et tous les réseaux sociaux qui l'accompagnent. En commun, ils ont une culture manga, c'est de là que vient leur drapeau, la tête de mort avec un chapeau de paille de One Piece. En commun, ils ont d'appartenir à la génération Z, la Gen Z. Ils sont nés entre la fin des années 90 et les années 2010. On les appelle aussi les Zoomers, comme l'application Zoom. Et cette fin d'année 2025 a été celle de leur révolte.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Ce jour-là, nous avions l'intention d'aller au Parlement et de faire sortir les parlementaires du bâtiment, parce qu'on sait très bien que c'est là que commence la corruption. On voulait faire ça paisiblement, mais quand on s'est approché, on nous a lancé des gaz lacrymogènes.
Ici au Népal, c'était les 8 et 9 septembre. Au Maroc, presque au même moment. Au Pérou, en octobre. À Madagascar, aussi. Un peu avant, à Nairobi. Toute une génération hyper connectée a dit qu'elle voulait compter, que le futur ne pouvait pas se faire sans elle. Elle a aussi dit qu'elle était prête à mourir pour ça parce qu'à chaque fois, les autorités ont ouvert le feu. À Katmandou, 72 morts, plus de 2000 blessés. À la fin, un gouvernement destitué et une nouvelle première ministre élue sur la plateforme Discord. Nous en reparlerons. Voici le récit, avec Cécile Bideau et Virginie Lorda, d'une révolution éclair et d'un avenir encore à construire.
Nous avons pris place à bord d'un bus qui nous emmène au Parlement, enfin ce qui reste du Parlement, puisque c'est un des bâtiments qui a été visé pendant les manifestations des jeunes. Enfin, c'est un peu chaotique dans ce bus, on entend le responsable du bus crier après les gens pour qu'ils montent très très vite à bord. Donc là on est arrivé devant le Parlement, donc le bâtiment est encore debout mais on voit encore les traces de la fumée, les traces de l'incendie. Et tout autour, des barrières qui sont démontées, des tags qui disent « longue vie à la démocratie » et un rassemblement là, juste devant le Parlement. On voit des personnes qui installent des bougies et on voit derrière des portraits de certaines victimes qui sont mortes pendant ces deux jours de manifestation.
Vous m'entendez tous ? Je vous souhaite la bienvenue. En souvenir de nos martyrs, nous allons allumer des bougies ce soir. Nous avons intitulé cette cérémonie « Génération Z, les combattants pour une bonne gouvernance de notre pays ». Tout d'abord, nous allons nous recueillir en silence. Ensuite, nous entendrons l'hymne national, puis la célèbre chanson népalaise Sambodhan. Il y aura ensuite des discours des ministres intérimaires qui vont nous rejoindre. Les frères et les sœurs des victimes prendront aussi la parole. Si vous pouviez vous reculer un petit peu pour ne pas écraser les bougies que nous avons mises en place. C'est un endroit sacré. Merci.
Sayatunga pulkami eutai mala nepali, sarva
Je m'appelle Rachila. Mon frère a été tué lors de la première manifestation. Il a reçu 2 balles dans la poitrine. Il n'avait que 22 ans. Il était très beau. Je me suis fait un tatouage. Ma mère l'a fait aussi.
Le visage de votre frère sur le bras.
Je sais que ça ne le ramènera pas, mais il sera avec moi pour toujours. J'ai perdu mon merveilleux frère, mais nous allons nous battre pour obtenir justice. Ça fait 2 mois que ces jeunes ont été tués brutalement, ici même par la police, alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre la corruption. Ils ne faisaient que marcher et taper dans les mains. Donc nous allumons des bougies aujourd'hui. Nous le ferons chaque mois jusqu'à ce que nous obtenions justice. Parce que ceux qui ont tué nos frères et sœurs sont toujours libres de leur mouvement et nous n'avons pas obtenu justice pour l'instant.
Qui est responsable selon vous ?
C'est évident. L'ancien gouvernement. C'est clairement sa faute. Les ministres sont responsables de ces morts et de tous ces jeunes de la génération Z qui ont été blessés. Nous voulons la justice. Nos familles, nous tous de la génération Z, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Le Népal est un beau pays, mais à cause de la corruption, nous ne pouvons pas vivre librement. Quoi qu'il arrive, nous nous battrons jusqu'au bout.
Courageux martyrs !
Vive les martyrs !
Vive les martyrs !
Vive les martyrs ! Sambodhan timilai gardai chuma sikeka ti sabai dhunharule samarpan.
Jenji yuddha dewasi beji khalgu kura.
C'est la fin de la cérémonie, et alors que les bougies ont du mal à résister au vent, un jeune homme a pris le micro. Il est visiblement blessé, il a le bras en écharpe, et on va aller lui parler pour qu'il nous raconte son histoire.
Je m'appelle Madan Karki, j'ai 25 ans, et je viens de Sindhu Palchok. Regarde cette vidéo.
Donc là, ils nous montrent des vidéos de la manifestation avant que la police tire, et c'est une manifestation des plus classiques avec des jeunes qui chantent, qui dansent et qui disent des slogans.
La Gen Z est une génération qui s'est soulevée. Elle est devenue la voix de tout le peuple. C'est pour cette raison qu'il y avait autant de monde.
Et après, dans le téléphone, c'est d'autres images de vous avec votre blessure.
Oui, j'ai été blessé et on m'a évacué par ambulance vers l'hôpital. Ce jour-là, nous avions l'intention d'aller au Parlement et de faire sortir les parlementaires du bâtiment, parce qu'on sait très bien que c'est là que commence la corruption. On voulait faire ça paisiblement. Mais quand on s'est approché, on nous a lancé des gaz lacrymogènes. Et c'est à ce moment-là que j'ai été touché. Autour de moi, 7 ou 8 personnes se sont effondrées.
Qu'est-ce que ça vous inspire que la police népalaise ait tiré à balles réelles sur des jeunes qui manifestaient ?
C'est l'arrogance du gouvernement, surtout du Premier ministre K.P. Oli, qui s'est dit « On va tuer 2-3 gamins aujourd'hui et demain ils seront rentrés chez eux ». Il ne voulait pas comprendre ce qu'on essayait de dire. Ça lui était égal qu'on soit blessé ou tué.
Vous êtes marqué à vie par cette balle que vous avez prise. Vous avez d'ailleurs encore le bras immobilisé. Pourtant, vous avez le sourire.
Je suis souriant. Je suis heureux depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je suis content d'être vivant. Cette balle, ce n'est rien. Ce jour-là, alors que je croyais que j'allais mourir, j'étais content de savoir que la prochaine génération aurait quelque chose de bien. Au moins, j'ai pu faire quelque chose pour mon pays. Je suis content de ça.
« Donc là, on vient de passer la grille d'un des hôpitaux publics de Katmandou, le Beer Hospital, qui a été construit dans les années 1940. Façade blanche, assez défraîchie. On a rendez-vous avec Sanjeev, un jeune homme qui a aussi été blessé par balle alors qu'il manifestait dans une autre ville. Il est resté hospitalisé plus de 40 jours et a dû être amputé du bras droit. Il a déjà repris le travail, il avait créé une agence d'intérim qui envoie de la main-d'œuvre à l'étranger. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec son médecin.
Dans les couloirs de ce grand hôpital. Hi, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui vous êtes et ce qui vous est arrivé?
Yeah, I am Sanjeev Saporta.
Je m'appelle Sanjeev Saporta. J'ai été blessé pendant une manifestation de la Gen Z. J'ai été hospitalisé à deux endroits, d'abord à l'est du Népal, où j'ai été blessé, puis ici, à Katmandou. J'ai été opéré trois fois. Ils ont essayé de sauver mon bras, mais ils n'ont pas réussi. Après 10 jours d'hospitalisation, ils ont dû m'amputer. Aujourd'hui, c'est mon dernier rendez-vous à l'hôpital. Pour retirer les derniers fils. Mais le médecin n'est pas disponible. Je vais devoir revenir demain.
Comment vous vivez aujourd'hui sans votre bras droit?
Je vis la même vie qu'avant, parce que Dieu nous a donné deux bras. J'en ai perdu un. Je dois simplement faire le même boulot avec un seul bras. C'est facile pour moi, j'ai juste à m'adapter. Il faut laisser les choses se faire, c'est tout. C'est un sacrifice qui va amener une nouvelle ère au Népal. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, notre pays atteindra un autre niveau. Ces manifestations, c'était contre la corruption. Mais pas seulement. Cela concerne aussi la situation économique. J'ai sacrifié mon bras à ma nation. Ce n'est pas que moi que ça concerne, mais tous les citoyens du Népal.
Est-ce que vous pensez que le monde se rend compte, le reste du monde se rend compte de ce qui s'est passé ici au Népal?
Il faut que tout le monde tire les leçons de ce qui s'est passé ici. Si dans votre pays, il y a de la corruption, il faut élever votre voix, vous battre contre ça. C'est mon message à vous tous qui écoutez. Regardez le Népal et mobilisez-vous contre tout ce qui ne va pas chez vous.
Thank you so much for your time. बनेर सोच्छ लागि हान्छ मन छाल बनेर नै बग्दिन्छ जानै छ नि डाँडा बाटै भरिकाला चाल बनेर प्रेम धड्किन्छ आशै छैन भने कहाँ जाउँ दुरी हुरी बनेर नै सकिन्छ
तिमीलाई सम्झेर रोयो मन के गरी फकाउ म जिउँदै जानी छ खुसी पनि कसरी सम्हाउ म तिमीलाई सम्झेर
Nous voici maintenant dans le quartier de Budanilkanta, c'est le quartier le plus au nord de Katmandou, un quartier de pèlerinage pour les hindouistes. Il y a un temple très célèbre non loin d'ici. On est entouré de verdure, de forêt, et on va rencontrer un Français qui est installé à Katmandou depuis 30 ans déjà. Il s'appelle Jérôme Edou. Il y a une petite cloche à l'ancienne sur ce portail.
Entrez, entrez.
Bonjour. Donc ici, on est chez vous?
On est chez moi, tout à fait. En fait, je loue cette maison depuis 10 ou 12 ans. Voilà, donc c'est un vrai plaisir, parce qu'on est un peu au-dessus de Katmandou. On a l'impression d'être un peu moins dans la pollution, on a l'impression d'être un peu plus près des montagnes. On entre?
On vous suit.
Moi, ce qui me frappe toujours et qui m'émeut toujours, c'est qu'en fait, tout est dans la rue. La vie est dans la rue, la mort est dans la rue, la maladie est dans la rue. Il n'y a rien qui est caché. Et du coup, on est toujours en prise directe avec le réel. C'est encore une surprise, c'est encore un émerveillement, même après 35 ans.
Et donc, dans la rue, c'est là que sont descendus ces jeunes.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle de la Gen Z, Génération
ouais.
Z.
Ouais.
Ça vous a surpris que ça aille si vite et si violemment?
On a entendu parler le 8 septembre des premières manifestations avec la coupure d'Internet et des réseaux sociaux. Moi, j'habite en face d'un ancien Premier ministre qui s'appelle Déouba, très, très corrompu. Sa femme était ministre des Affaires étrangères, aussi très, très corrompu de notoriété publique. Et du coup, le 9 au matin, on a commencé à entendre des bruits partout, de la fumée, et des milliers de gens ont débarqué. Et ça a duré toute la journée. Ils ont mis le feu à la maison. Et puis, il y a les hélicoptères de l'armée qui ont commencé à tourner pour essayer de venir les récupérer. Tous les gens qui faisaient brûler des pneus, lancer des cailloux pour empêcher l'hélicoptère d'atterrir. Donc voilà, il y avait quand même un petit côté un peu guérilla, quand même. Hein, voilà. Après, qui a motiver tout ça, qui a géré tout ça, parce que c'était quand même très bien géré. Le fait d'aller brûler les maisons de tel ou tel ministre, etc., c'était pas anodin, c'était pas au hasard, hein, c'était vraiment planifié. Moi, je comprends leur frustration. Finalement, ils n'ont pas de place. Personne ne peut faire de la place. Donc, pour avoir de la place, il faut qu'ils la prennent.
Vous disiez, vous êtes voisin de la maison de l'ancien Premier ministre qui a brûlé.
Oui. Il y a même deux, d'ailleurs.
Et est-ce qu'on peut aller les voir?
Oui,
parce qu'il en reste, en tout cas.
Alors c'était étonnant parce que pendant quelques jours après, il y avait tous les gens qui venaient prendre des photos, se faire des selfies devant les ruines et tout. C'était assez étonnant, des centaines de gens qui venaient en famille.
Alors donc là, on reprend le petit chemin qui sort de votre maison.
Voilà, les petits écoliers qui rentrent de l'école.
En uniforme.
En uniforme, tout beau. Voilà ce qu'il en reste.
Donc ça, c'est la maison.
C'est la maison de l'ancien Premier ministre, Déouba, et sa femme, Adoun, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Ça, c'était la maison des gardes, des jardiniers, des chauffeurs, etc. Voilà, donc tout ça a brûlé.
Oui, là, on voit, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus que l'ossature métallique. Quoi.
Ouais.
Mais en fait, effectivement, c'est plus qu'une maison, c'est un palais avec des dépendances.
Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ouais.
Une sacrée maison.
Ouais. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui reste. Alors, le truc qui était étonnant, c'est qu'évidemment, ils avaient des milliers de dollars, de roupies, de l'or sous les planchers, sauf que les gamins ont mis le feu. Et alors, les centaines de milliers de roupies ont brûlé. Et alors, il y avait tout le monde qui essayait d'attraper les roupies parce que c'était à moitié brûlé, ça volait dans tous les coins. Enfin, c'était le délire complet. On dit que certains se sont servis avant que ça brûle.
À Katmandou, depuis, le calme est revenu. Le Premier ministre est parti, une femme a été choisie pour le remplacer, le temps d'organiser des élections prévues pour mars prochain. Elle s'appelle Sushila Karki, ancienne chef de la Cour suprême. Élue par la Gen Z sur la plateforme Discord, donc ils ont voté comme ils vivent, téléphone à la main, et c'est une première mondiale. En voici quatre de ces jeunes gens, juste diplômés, presque étonnés de la rapidité des changements politiques. Dans un café de Katmandou, ils en discutent autour de citron chaud au gingembre.
Peut-être qu'on va commencer par une petite présentation, un tour de table.
Hello, my name is Drishti Silwal. Je m'appelle Drishti Silwal, j'ai 25 ans. Je travaille dans une entreprise où j'encadre une équipe de 25 personnes.
À Katmandou, vous travaillez.
Oui.
Et vous parlez un peu français.
Oui, un peu.
Hello, my name is Suzanne Parajuli.
Je suis Suzanne Parajuli, je viens de Pokhara. J'ai étudié le droit pendant 5 ans, je viens de terminer ma formation d'avocat.
I am Sirish Powdel.
Je m'appelle Sirish Powdel, je suis aussi diplômé en droit.
I am also a law graduate and I'm also involved in youth and student activism.
Je suis très engagé dans le syndicalisme étudiant.
I am Sarat Babushrestha.
Je m'appelle Sarat Babushrestha, j'ai 23 ans et je suis développeur de logiciels.
Software developer.
Tout est arrivé si vite, de façon si radicale. Cette situation, on ne pouvait pas y croire. C'était choquant de voir combien nos institutions étaient faibles, combien nos forces de sécurité étaient faibles.
Donc après ces deux jours de manifestation, le Premier ministre a démissionné. Il a même été évacué par hélicoptère pour sa sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment a été élu ce nouveau gouvernement d'intérim ?
Après la révolution de la génération Z, j'ai vu que les jeunes organisaient des réunions sur Discord. Ils discutaient de qui devait être notre futur Premier ministre. Discord, c'est une plateforme qu'on utilise pour communiquer quand on joue aux jeux vidéo. Et c'était très étonnant car la personne qui a finalement gagné l'élection sur Discord est celle qui est devenue notre première ministre intérimaire.
La première ministre qui a été élue sur Discord n'est pas jeune, Sushila Karki.
À ce moment-là, les groupes qui se disaient Gen Z étaient incapables de savoir qui ils devaient choisir comme leur représentant pour négocier avec le président et l'armée. Parce que l'armée était très présente après les manifestations. Donc les jeunes ne savaient pas qui mettre en avant. Revendiquer le changement, c'est une chose, mais faire en sorte que ce changement se produise de façon légale, c'est une autre chose. Facile à dire, difficile à faire. Donc c'est sans doute pour ça que la génération Z a choisi Sushila Karki comme première ministre, car elle avait dirigé la Cour suprême.
Alors sur le fond, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui aujourd'hui vous rend peut-être en colère ou frustré, ou en tout cas, quelles sont vos revendications en tant que jeune de cette génération Z ?
Notre principal problème, c'est le chômage dans ce pays. C'est pourquoi beaucoup de jeunes quittent le Népal. Autour de moi, près de 90% des amis avec qui j'étais à l'école primaire sont à l'étranger. 90%. Ça me rend vraiment triste. Et ce n'est pas par envie, mais parce qu'ils trouvent de meilleures opportunités à l'étranger. C'est très inquiétant. D'autant qu'ils ne sont pas heureux en dehors de notre pays.
J'attends de notre gouvernement, de notre État, qu'il offre aux habitants ce dont ils ont besoin. Une éducation plus qu'une éducation de base, de bonnes universités, de meilleures opportunités d'emploi, une économie plus dynamique. Il faut que toutes les régions soient correctement desservies par la route et les réseaux électriques. Il y a quand même de bons signes. Le tourisme n'a pas été affecté. Donc, à tous ceux qui m'écoutent, je dis, le Népal est un pays sûr. Venez nous rendre visite. Voilà ce que j'espère pour l'avenir.
Est-ce que vous pensez que ces mouvements, différents mouvements de la génération Z dans le monde, peuvent se connecter entre eux et donner un mouvement un peu plus global de la jeunesse ?
Dans toutes les manifestations de la génération Z, dans tous les pays, nous avions un drapeau en commun, un drapeau noir avec une tête de mort. C'est le drapeau de One Piece. C'est un manga que je regarde. Ça raconte un soulèvement contre la corruption, contre de grands chefs qui abusent de leur pouvoir. Cet animé a beaucoup d'influence sur la Gen Z. Il nous permet de ne pas avoir peur, parce que le personnage principal n'a peur de rien. Il est très optimiste. Il ne réfléchit pas beaucoup avant d'agir. Il ressemble à la Gen Z qui est très spontanée.
Ce qui a fait se soulever la Gen Z, c'est l'injustice. Et de l'injustice, il n'y en a pas qu'au Népal. Ça existe partout dans le monde. Pour moi, c'est ce qui relie toute cette génération, se battre pour ses droits.
Moi, je vois cette mobilisation comme une vague mondiale. Pour qu'elle déferle, il suffit d'une seconde grâce à Internet. Ce qui se passe là, c'est la conséquence de la mondialisation. Je crois que par-delà tout ce chaos, il y a l'espoir que ma génération soit prête. prête à se préoccuper de ce que font les gouvernements dans leur pays. Les citoyens sont les souverains.
Donc, vous pensez que c'est le début de quelque chose ?
Oui, je le crois.
Pour mieux appréhender le quotidien de ces jeunes Népalais, dont un quart vit en dessous du seuil de pauvreté, on va se rendre chez Sajal. Il a 23 ans, il est enseignant à Katmandou. Alors on a un petit peu de route, on a embarqué dans un taxi, et dans cette ville de 3,5 millions d'habitants, se déplacer d'un point à un autre, ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation. La cohabitation entre les voitures, les camions, les motos, les scooters, les vélos est parfois un peu chaotique. On roule à gauche et on utilise beaucoup de klaxons. Voilà, on est arrivé à destination. La maison de Sajal, c'est un baraquement de tôle. Il vit ici avec sa mère, sa sœur et son neveu qui a 4 ans. On rentre là dans une première petite pièce. Il y a un réchaud pour faire à manger, un petit frigo, une table en plastique. Il n'y a pas d'eau. Et sur la gauche, il y a une deuxième pièce avec deux lits où dort toute la famille. Donc 3 adultes et un enfant.
Voilà, c'est ici que je vis. Voici ma mère. Je vous en prie, venez, asseyez-vous. Vous savez, au Népal, il y a un dicton qui dit « Ça veut dire « Nos invités sont nos dieux ». Je vous prépare du thé.
Thank you, ma'am.
Hello, my name is Sajal Kunwar.
Je m'appelle Sajal Kunwar.
And I'm 23 years old.
J'ai 23 ans.
And I teach science and
J'enseigne les sciences et les maths.
This house was made.
On a construit cette maison il y a 2 ou 3 ans.
It is made of bamboo.
Elle est faite avec du bambou et des tôles d'aluminium. L'été, il fait très chaud, c'est dur de vivre ici. Et en hiver, il fait trop froid. Mais le plus gros problème dans cette maison, ce sont les rats. Quand on dort, on les entend courir partout, c'est gênant. Et regardez, si je fais ça, il y a les excréments des rats.
Là, il vient de manipuler une bâche qui fait office de toit au-dessus des lits, en fait.
On n'arrête pas de nettoyer, mais je pense qu'on devrait enlever cette bâche. Mais en même temps, elle nous protège de la pluie, ça nous évite de recevoir de l'eau sur la tête. J'ai fait beaucoup de petits boulots pour survivre. J'ai vendu des sacs, des jeans, des ananas. L'école où je travaille maintenant est celle où j'ai étudié depuis la maternelle. Aujourd'hui, j'y enseigne. J'adore mon travail. J'adore passer du temps avec les enfants, leur apprendre des choses. Je n'ai pas une vie incroyable, je n'ai pas beaucoup de moyens ni un grand niveau de vie, mais je suis heureux de ce que j'ai. Je ne me qualifierais pas comme quelqu'un de la classe moyenne, plutôt de la classe moyenne inférieure, mais il suffirait que je tombe malade pour que la famille sombre dans la pauvreté. Ma mère a des problèmes de foie, et une grande partie de mon salaire part dans les frais de santé, les médicaments. Mais bon, ça va. Mon premier objectif, c'est d'avoir une petite maison. Je pense qu'il va falloir que j'aille à l'étranger pour avoir un meilleur salaire. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir aller à l'étranger, en Europe, pas pour étudier, pour travailler. Dans n'importe quel domaine, serveur, ouvrier, chef d'équipe, si j'ai l'opportunité, je partirai. Je rêve de réussir. Quelle est ma feuille de route ? C'est juste une hypothèse. Je pars à l'étranger, je gagne un peu d'argent, puis je reviens. Je fais des investissements financiers dans mon pays. Je n'ai pas l'intention d'être riche en 5 ans. Ça prendra peut-être 15 ou 20 ans. Mais j'y crois. J'ai la connaissance, j'ai confiance en moi. J'ai juste besoin d'avoir de meilleures opportunités, un bon salaire, économiser un peu. Ben voilà, c'est ma feuille de route. Mais ne le dites à personne.
Oui, on ne dira à personne, c'est promis.
Sajal, on vient de le voir, vit dans des conditions précaires et pourtant, hors micro, il nous a confié qu'il faisait partie de la deuxième caste la plus élevée de l'hindouisme. Ce système d'organisation de la société est aussi dénoncé par la génération Z d'ailleurs, car il génère des inégalités. 80% des Népalais sont hindouistes. La religion est très importante ici. Et en chemin vers notre prochain rendez-vous, on s'est arrêté sur une place où il y a de nombreux temples en bois. Elle s'appelle Durbar Square. Alors autour de nous, on voit des jeunes, des vieux, des étudiants en uniforme qui, avant d'aller en cours, déposent des offrandes, font une prière et sonnent une petite cloche. C'est normal, on se trouve dans une salle de classe de l'Alliance française de Katmandou. De jeunes Népalais apprennent le français. Le prof, il est Népalais, mais il est parfaitement bilingue.
Vous allez bien ? Vous allez bien ? Est-ce qu'il y a...
Oui.
Oui.
Très bien.
Regardez, page 15, regardez ici. Les objets de la classe. Et qu'est-ce qu'il y a ?
Chaise.
Je m'appelle Sassi, Sassi Bikram Karki, j'ai 42 ans. Je suis prof à l'Alliance française de Katmandou depuis une dizaine d'années. Et voilà, et je travaille aussi pour Campus France, agence de gouvernement français. Et normalement, notre rôle, c'est aider les élèves népalais qui veulent aller en France pour leurs études en France. France, ce n'est pas le premier pays qu'ils choisissent. Hein. Il y a d'autres pays, par exemple Australie, États-Unis, Canada, etc. Parce que dans les pays anglophones, c'est facile pour eux. Mais la France aussi, ça les attire. Presque tous les jeunes, ils veulent partir. Voilà. Donc on n'a pas de statistiques, je ne sais pas combien d'étudiants ils rentrent, combien ils restent, mais souvent, c'est ce que j'ai remarqué, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas revenir au Népal.
Ça veut dire qu'ils ne voient pas leur avenir au Népal.
Exactement. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs choses. Parce que la situation politique chez nous, ce n'est pas stable, on peut dire, parce que notre constitution, dernière constitution, c'est très récent. Notre système politique n'en fonctionne pas très bien. Donc souvent, dans les établissements, il y a des grèves. En plus, notre salaire moyen, c'est pas très attirant. Donc, c'est-à-dire, en travaillant dans une entreprise, on peut pas imaginer acheter une maison ou acheter une voiture pour la famille, etc. En travaillant ici, c'est presque impossible. Après, il y a aussi d'autres facteurs sociaux. Par exemple, il y a beaucoup de discrimination, je pense, en fait, discrimination de sexe, discrimination de caste, etc. Donc, pour éviter tout ça, tout le monde veut partir, ils ne voient pas leur avenir dans leur propre pays. Voilà. C'est dommage. dans un pays super jeune, vraiment jeune. Donc c'est vraiment une vraie perte pour le Népal.
Interception sur France Inter.
Comment les faire rester, ces jeunes gens qui ne voient d'avenir qu'en quittant le Népal ? Est-ce que cette révolte qui a coûté la vie à tant de leurs amis a suscité suffisamment d'espoir pour se dire « maintenant, tout va changer ». Comme partout dans le monde, dans chaque histoire de soulèvement de la Gen Z, aucun leader n'a réellement émergé. Ou peut-être un visage que les médias népalais ont identifié. Une jeune femme, très impliquée politiquement depuis le mois de septembre. Elle rencontre régulièrement les membres du gouvernement. Elle a d'ailleurs un emploi du temps de ministre et donne ses rendez-vous au théâtre Mandala, dans le centre de Katmandou.
On va monter en haut du théâtre.
Je m'appelle Rakshya Bam, je suis une militante, j'ai 26 ans.
Comment vous vous définiriez par rapport au mouvement Gen Z, une porte-parole, une leaduse ?
Je suis une manifestante. J'ai participé à la mobilisation de la Gen Z et maintenant je suis une des représentantes de ce mouvement. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de corruption. Nous voulons que ce pays soit bien gouverné. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que le nouveau gouvernement réussisse. On essaye de changer le système. Nous voulons vraiment une réforme des partis politiques parce qu'on n'en peut plus de ces deux, trois vieux qui se relaient au poste de Premier ministre. Encore et encore. Il faut vraiment que les jeunes intègrent les partis.
Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de vous lancer vous-même en politique, éventuellement participer aux élections, être candidate ?
Je n'ai pas encore décidé. Parce que se lancer en politique, à mon âge, ce n'est pas rien. On verra ce que l'avenir me réserve.
Mais est-ce que vous pensez que les jeunes doivent s'impliquer aujourd'hui dans ces élections ?
Nous allons nous impliquer dans ces élections, notamment en tant qu'électeur. Mais du point de vue idéologique, c'est pas facile, parce que c'est une génération. Il ne faut pas s'attendre à ce que toute une génération pense la même chose. Nous sommes tous différents. Mais pour l'intérêt de ce mouvement, nous nous réunissons et nous sommes en train de construire une plateforme numérique pour rassembler nos idées, connecter les jeunes qui sont dans la même idéologie.
Est-ce que vous avez de l'espoir alors pour ce qui va se passer maintenant ?
J'ai beaucoup d'espoir. Nous n'avons pas le choix. Nous devons espérer.
Alors c'est vrai que voir un régime s'effondrer en deux jours sous la pression de toute une génération, ça pose beaucoup de questions. Et pour avoir quelques réponses, nous sommes à l'université de Kastamandap. C'est sur les hauteurs de Katmandou. On a une vue sur la chaîne himalayenne avec ses sommets enneigés, malheureusement un peu masqués par un nuage de pollution.
Je suis le docteur Rajendra Chapagain, maître de conférence en sciences politiques. Mais je n'ai jamais été affilié à un parti politique. Nous venons de vivre des jours historiques au Népal, qui ont conduit à un changement de gouvernement en deux jours seulement. Je ne crois pas que ce genre de décision ait été prise ailleurs dans le monde. Le premier jour de manifestation était spontané. Et ensuite, le deuxième jour, quand il y a eu tout ce vandalisme, tous ces incendies, je pense que le mouvement a été infiltré, qu'il y a eu des influences extérieures. C'est le genre de choses qui arrivent partout dans le monde, même dans les pays les plus démocratiques. On n'a pas de preuves.
Donc aujourd'hui, il y a une première ministre de transition et un gouvernement qui va organiser des élections en mars. Est-ce que vous y croyez d'abord ?
Je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'il y ait des élections parce que d'un côté, la génération Z n'est pas très politisée. Et de l'autre côté, les partis traditionnels ne sont pas vraiment prêts pour ces élections. D'un côté, le sujet qui intéresse les partis, ce sont les sièges au Parlement. Alors que la Gen Z met ses revendications sur la table et qu'aucune n'a été encore satisfaite. Donc comment pourrait-il y avoir des élections alors que le groupe qui a fait la révolution n'est pas satisfait ? Je ne pense pas qu'il y aura des élections paisibles. Il y a beaucoup de doutes. Les nuages du doute ont envahi le ciel politique du Népal.
Dans 3 mois, il y aura donc des élections législatives au Népal. Et pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Nous allons nous rendre dans le centre administratif qui s'occupe de ces inscriptions. Et avant même de rentrer, j'ai vu qu'il y avait l'accueil. Il y a des centaines de personnes et beaucoup de jeunes qui attendent. Voilà, nous avons pénétré dans l'enceinte de ce bâtiment. Et il y a en effet une file d'attente qui fait tout le tour. On va voir si on peut rentrer à l'intérieur, rencontrer des jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Ça se bouscule un peu à l'entrée. Hein.
Je m'appelle Pranil Korka, j'ai 21 ans.
Et moi, c'est Binsa Pandey, j'ai 21 ans. On est étudiants.
Et là, on est en train d'attendre pour s'inscrire.
C'est la première fois que vous allez voter ?
Oui.
Oui, c'est la première fois. On a tellement hâte.
Dans la main, j'ai ma carte d'identité et le formulaire d'inscription. On veut élire un bon dirigeant pour notre pays. On ne veut pas que les vieux politiciens reviennent au pouvoir.
C'est notre droit, un droit fondamental. Pour que notre pays se développe, on a besoin d'un leader de la génération Z pour que le Népal puisse avoir une place dans le monde.
Ah, ça y est, c'est le tour du jeune couple. D'abord, la jeune femme là, qui vient de s'asseoir face au fonctionnaire. Donc d'abord, elle a été prise en photo. Ensuite, elle pose le pouce droit, puis le pouce gauche sur le petit appareil qui permet de prendre ses empreintes. Et voilà. Donc là, on est sorti du bureau et il brandit son petit reçu en disant « c'est ma carte, c'est ma carte ».
Grâce à ce papier, on va pouvoir voter.
Est-ce que c'est une autre manière de se mobiliser ?
Oui.
Oui.
Les manifestations ne suffisent pas. En votant et en choisissant nos dirigeants, nous pourrons changer les choses.
Il faut que les choses changent. Le Népal a perdu tant de citoyens, beaucoup de jeunes gens ont été sacrifiés. Il faut que ça bouge maintenant. À partir de maintenant, les leaders, c'est nous, les jeunes. Personne ne va diriger à notre place. Nous sommes les leaders. Le Népal doit changer. C'est la première étape.
This is our first step.
On a entendu des paroles sérieuses, profondes, parfois tristes. De cette jeune génération népalaise. Mais la génération Z, ça reste la génération de la jeunesse qui sort aussi le soir. Là, on est dans le quartier de Tamel, le quartier le plus festif de Katmandou. Et on a repéré un petit karaoké.
Je m'appelle Otul Tamang, je suis étudiant en informatique
et j'ai 22 ans. C'était super dur ces derniers temps après les manifestations. Tout était fermé, les magasins étaient fermés. On a même eu un couvre-feu pendant 2 jours. L'armée, la police étaient partout. C'était dur. Donc aujourd'hui, c'est terminé, on s'amuse, on s'est débarrassé de cette société corrompue. On a réussi parce que les jeunes, toute cette génération Z est unie et solidaire. Si quelqu'un a besoin d'aide, on est tous là pour l'aider. Le Népal, c'est comme une famille, on est tous ensemble.
Gen Z of Nepal, Surf France Enter.
Népal, quand la Gen Z se soulève. Un reportage de Cécile Bidot pour Interception, avec Virginie Lorda à la prise de son. À la production cette semaine, Xavier Yvon. La réalisation est signée Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Patricia Miura pour la documentation d'actualité et à Pierre Plantin pour la documentation musicale. Cette semaine, c'est David Dibouet-Black et Maxime Goudard qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.